On va commencer aujourd'hui avec une image assez terrible. Imaginez un inspecteur stagiaire qui tombe des années plus tard sur un vieil album photo de la PJ.
Ah oui ?
Et là, des photos en noir et blanc. Une scène d'horreur dans un hôpital psy. 5 patients en pyjama, égorgés dans un dortoir. Le chaos, le sang partout. Et l'arme, un couteau de boucher. Enfin, un couteau à égorger les moutons, c'est précisé.
C'est glaçant comme point de départ.
Absolument. Ça nous plonge direct dans la nuit du 4 au 5 mai 1979 à l'hôpital de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne. On se base principalement sur l'article de Thierry Toutain, cet inspecteur justement.
Celui qui a découvert l'affaire donc ?
Exactement. Et notre objectif c'est de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Et surtout, de se poser la question, est-ce que cette tuerie de masse, on peut dire ça avant l'heure, aurait pu être évitée ?
Une question lourde effectivement.
Alors, les faits. On a un homme, 37 ans, qui est admis volontairement. Il arrive de nuit via le CPOA de Sainte-Anne à Paris après un passage à Claude Bernard.
Le CPO, assez important, ça. C'est un centre d'accueil et d'orientation. L'admission se faisait souvent sur une base, disons, déclarative, assez rapide.
Voilà, le diagnostic posé, dépressif, anxieux. Mais, point important, il n'y a pas de signe d'agitation à ce moment-là. Il est calme.
Et c'est là que ça devient crucial. Comme il arrive par cette voie volontaire spécifique du CPOA, le règlement intérieur de l'époque ne prévoyait pas de fouille au corps systématique.
Contrairement au placement d'office ou même volontaire classique sous la loi de 1838.
Exactement. Ses autres admissions étaient plus encadrées, niveau sécurité. Là, non. Du coup, il a pu cacher son couteau.
D'accord. Et on l'installe où ?
Au pavillon 36. Un dortoir commun, 10 lits.
On lui donne un somnifère et...
Voilà.
Et deux heures plus tard ?
Deux heures plus tard, c'est l'explosion. Une crise d'agitation extrême. Les termes de l'époque, c'était bouffée onirique, accès crépusculaire.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
En gros, un état de confusion totale, soudain, avec des hallucinations probablement. Il est persuadé qu'on veut le tuer. Et il attaque.
Le bilan, on l'a dit, est effroyable.
Oui. 5 morts sur place, égorgés. 4 blessés graves. Et un des blessés décédera plus tard. Donc 6 morts au total.
Et le personnel ? Les infirmières.
Il y avait 2 infirmières de garde pour tout le pavillon. Elles sont intervenues, mais c'était trop tard. Le mal était fait.
L'auteur de l'article, Toutain, il a exploré une piste au début, non ? L'antipsychiatrie ?
Oui, il s'est demandé si ce refus de fouiller s'était pas lié à ce courant des années 60-70. Un mouvement qui critiquait beaucoup la psychiatrie asilaire, les contraintes, les électrochocs, et qui mettait l'accent sur la liberté du patient.
L'idée étant, on ne l'a pas fouillé par idéologie, pour respecter sa liberté à tout prix.
C'est ça. Une hypothèse logique vu l'époque. Mais les témoignages qu'il a recueillis ont montré que non.
Ah bon ?
Non. C'était vraiment l'application standard du protocole pour ce type d'admission via le CPOA. On demandait au patient s'il avait des objets dangereux, mais on ne fouillait pas d'office. C'était basé sur la confiance, en quelque sorte.
Pas une décision militante, donc, mais une procédure établie.
Tout à fait.
Alors, si ce n'est pas l'idéologie, qu'est-ce qui a coincé ? Pourquoi ça semblait presque inévitable à l'époque, comme le suggère l'article ?
Il y a plusieurs facteurs qui se sont combinés de façon tragique. D'abord, le caractère imprévisible de la crise elle-même.
Le diagnostic initial ne le laissait pas présager ?
Non. On parle de raptus hallucinatoire. C'est une explosion de violence soudaine liée à un délire aigu. Un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit. Difficile à anticiper sur la base de l'évaluation initiale, apparemment.
D'accord. Imprévisibilité. Et ensuite ?
Ensuite, il y a la réalité des moyens de l'époque.
Le manque de personnel, j'imagine ?
Dramatique. 2 infirmières, souvent des femmes d'ailleurs, depuis la mixité des postes, pour 41 patients cette nuit-là.
41 ?
Oui. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, en France, il y avait encore 60 000 lits en salle commune dans les hôpitaux psychiatriques. La surveillance était ce qu'elle pouvait être, forcément limitée.
Une intervention rapide était quasi impossible dans ces conditions.
Voilà. Donc, acte imprévisible, manque criant de personnel et ce fameux protocole d'admission sans fouille pour les arrivées du CPCOA. Un cocktail fatal.
Une faille dans le système, en quelque sorte.
Oui, une faille non intentionnelle liée à ce protocole spécifique. D'ailleurs, une infirmière témoigne qu'après ce drame, la consigne a changé.
Ah oui ?
Mise en pyjama systématique de tous les nouveaux arrivants, quel que soit le mode d'admission.
Ok.
Pour pouvoir vérifier s'il cache quelque chose. Une mesure prise en réaction directe à la catastrophe.
C'est souvent comme ça. Et au niveau judiciaire, qu'est-ce qui s'est passé pour l'auteur des faits ?
Il a été déclaré irresponsable pénalement. C'était l'article 64 de l'ancien code pénal.
C'est-à-dire ?
Les expertises psychiatriques ont conclu à un état de démence au moment des faits. Plus précisément, un épisode délirant subaigu d'étiologie toxique. En clair, son état mental l'empêchait d'être jugé et condamné comme un criminel ordinaire.
Donc, pas de prison?
Non. Il était hospitalisé sous contrainte, puis transféré dans un hôpital de son pays d'origine en juillet 1981.
L'affaire est close, comme ça?
Judiciairement, oui. L'événement reste, heureusement, exceptionnel. Mais il résulte vraiment de ce concours de circonstances tragiques. L'auteur de l'article note d'ailleurs que, si on applique les définitions actuelles, notamment américaines, ça correspondrait à un mass murderer, un tueur de masse.
C'est fou d'y penser rétrospectivement. Donc pour résumer, on a une violence extrême, déclenchée par une maladie mentale, dont la manifestation aiguë était imprévisible, qui frappe dans un contexte de sous-effectif flagrant et avec un protocole d'admission qui, pour ce cas précis, créait une vulnérabilité.
C'est exactement ça. Une conjonction terrible.
Et ça nous amène à une réflexion plus large, peut-être ?
Oui, tout à fait. Au-delà des protocoles spécifiques de 1979, cette tension fondamentale entre la liberté du patient en psychiatrie, l'évaluation du risque qui reste complexe, et puis les moyens qu'on alloue à la surveillance, à l'accompagnement, ce dilemme reste entier, non ?
C'est une question toujours d'actualité.
Comment les systèmes d'aujourd'hui gèrent cet équilibre ? Est-ce que notre compréhension de l'imprévisibilité a tant évolué que ça ? Est-ce qu'on est vraiment mieux armé pour éviter ce type de conjonction fatale ? C'est une question qui reste ouverte, je crois.